إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخوتي في الله نواصل قراءتنا لهذا الكتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله تعالى. T'as pas WhatsApp, Paris ?
Non.
T'as pas WhatsApp,
t'as rien. Quand tu... Il faut que je le télécharge.
Si tu peux, c'est bien, Inch'Allah. Sinon, dans tous les cas, je t'enverrai par texto les liens, Inch'Allah, qu'il te faut. Mais c'est bien si tu prends WhatsApp, comme ça, au moins, tu es dans le groupe avec nous.
Ça va, je vais le télécharger.
Inch'Allah, t'as rien.
Oui, après ça, je veux qu'il n'y ait pas.
Tu
sais pas
qu'il n'y a pas.
Si la nuit.
Vous passerez votre numéro, Inch'Allah, à la fin du cours. C'est bon ? On fait comme Barakallah. Taïeb. إذن ما زلنا في باب الهدي والأضحية والأضحية والعقيقة وذكرنا شروط الأضحية وشروط الهدي والعقيقة فمن يذكرها لنا إن شاء الله تعالى qui nous les rappelle بإذن الله les conditions du sacrifice concernant le sacrifice de l'أضحية concernant العقيقة Et concernant Al-Hadi, c'est quoi les conditions, Yahwa ?
Alors, Shurut al-Udhiya, c'est le numéro 1, c'est que la bête, elle est plus de 6 mois.
Pour toutes les bêtes ?
Non.
Non.
Pour toutes les bêtes.
Non. Pour le.
6 mois, c'est pour quelle bête, ça ?
Pour l'agneau et la chèvre.
Voilà. Ça, là.
Non, pour l'agneau.
C'est pour l'agneau, non. Seulement. D'accord ? Pour l'agneau, le mouton, c'est 6 mois.
Non.
La chèvre, c'est combien ?
Un an. Et le chameau, c'est 2 ans.
5 ans.
5 ans ?
Non. Le chameau, 5 ans.
Ah ouais, j'ai oublié, 5 ans. Et la vache, 2 ans.
Voilà, c'est un atteint. Taïeb ? Donc c'est important les âges, les frères. Tous les ans, on a droit aux mêmes questions. Tous les ans. D'accord ? Donc tout ce qui est de la race ovine, les agneaux, les moutons, c'est 6 mois minimum. La race caprine, les chèvres, les boucs et tout, un an. La race des camélidés, les chameaux, en France en général, hein, il n'y a pas. Mais sinon, les chameaux, c'est 5 ans, minimum 5 ans. D'accord ? Ou le bakar, la race bovine, c'est 2 ans. D'accord ? Et dans un chapitre de l'awwal, un tablora, sin al-mu'tabara shar'an, que la bête, elle est atteint l'âge légiféré religieusement. Donc si tu. On va égorger une bête, un agneau qui a 5 mois, maintenant, parce qu'elle est moins chère, parce que. Hein, là, elle n'est pas valide. C'est 6 mois minimum pour l'agneau. Chapitre Thani, deuxième condition.
Les caprines.
Un an. Un an.
Les chameaux, c'est quoi, Tchadji ?
5 ans.
Et comment ça s'appelle ?
Camélidée. L'ibil. C'est bon. Deuxième condition, chapitre Thani.
Les animaux qu'on n'a pas le droit d'exécuter.
Enlève la main, Moussa. Hein?
Les animaux qu'on n'a pas le droit d'exécuter.
Voilà. Taqoul, en taqouna khaliya min al-uyoub. Qu'elle soit dénuée de défauts. Combien de défauts on a cité ? 4. Mahir.
Alors, le fait qu'elle soit borne, le fait qu'elle soit
Tayeb. Donc déjà celle qui est bonne, on l'appelle, comment on l'appelle? Al-Awra. Al-Bayinu Awraha. Celle qui est bonne. Et celle qui ne voit pas des deux yeux, c'est pareil ou c'est que celle qui est bonne? C'est pire encore. Ouais, c'est pire. Tayeb. Ensuite, Al-Marida. Al-Bayinu Maradouha. Celle qui est malade. Celle qui a la fièvre, celle qui a la gale, le coronavirus. Ils ont trouvé des animaux hein, qui l'ont.
Ah oui,
ah, ah, ils ont trouvé un chien. Un chien, il avait. Un chien. Mais ce n'est pas en France. Hein, c'était...
Ils n'ont pas précisé.
Non, c'était pas en France. Pas en France. Mais un chien, il avait. Hein. Coronavirus. Qu'Allah nous en préserve.
Déjà, ils ont dit que de base, c'était les poulets qui l'avaient.
Ah ouais enfin, les poulets.
J'ai des expériences dessus.
Vous savez que ce virus, subhanallah, il est tellement petit qu'il faut, pour le voir au microscope, il faut le grossir 500 000 fois. 500 000 fois pour le voir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Il ne connaît les armées de ton Seigneur sauf Allah, Jalla wa'ala, sauf lui. Allah, avec quelque chose qu'on ne voit même pas, Il peut exterminer des peuples. Des pays puissants comme la Chine. Le pays le plus puissant, enfin, le plus peuplé, et l'un des plus puissants du monde, regardez, il tremble. À cause des... Hein?
Les soldats. Enfin, les soldats.
Les soldats. Jono, les soldats.
C'est le peuple entier.
Ouais.
C'est pas que les soldats.
Non, les soldats d'Allah, on parlait, le verset. Les soldats d'Allah, Allah, il envoie ses... ces maladies-là pour châtier ces peuples. Le kuffar, c'est une punition. C'est une punition, subhanallah. Et regardez aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils se cachent le visage. Qu'est-ce qu'ils disaient à nos sœurs? Interdiction de se cacher le visage. Là, c'est eux qui se cachent le visage.
Et tu n'as pas vu ce qui a
agi. Attends, et le serrage de main aussi.
C'est ça qui a agi. Maintenant, plus personne.
Ah, ils te disaient, tu ne serres pas la main à une femme, tu es viré. Ouais.
Ça faisait
polémique. Aujourd'hui, ils te disent, pas serrer la main.
Un mois avant, Macron, il a dit il n'y a pas longtemps. Là.
Ouais. Juste avant, ça faisait polémique.
Il a dit il n'y a pas longtemps, ah, Macron.
Ouais,
et oui, il a
dit. Il a discours sur ça en plus.
Il est passé à la télé, il a dit, il faut serrer là.
Serrer la main.
Les musulmans, il faut qu'ils servent la main et tout. Et maintenant, ils interdisent de serrer la main.
Sans parler de ce qu'ils font les Chinois avec les musulmans et tout.
Comme c'est
la maltraitance des Chinois en Chine, des musulmans chinois, et des Indiens aussi en Inde aussi. Ils sont maltraités aussi les musulmans en Inde.
Parce qu'on ne voit pas tout aussi.
Ah, on ne voit pas tout. Donc, à mon avis, ce qu'on ne voit pas, c'est pire. Ce qu'on ne voit pas, c'est pire. Sallallahu salam ala afiya.
De toute maladie évidente.
Clair, voilà. Qu'on peut voir visible. Forcément, si c'est pas visible, alhamdoulilah, tu peux pas savoir. Donc, on a cité deux défauts. Troisième défaut non. Al-arja. Al-bayinu arajuha. Celle qui boite et qui n'arrive pas à rejoindre le troupeau, qui n'arrive pas à marcher à côté du troupeau. D'accord. Et ensuite non. Al-kabira. Al-lati la tunqi. Celle qui est trop vieille, elle l'a dit là, ton cri. Ça veut dire quoi, là, ton cri? Hein?
Elle donne pas d'enfant?
Là. Elle a dit laïsa, laïsat, laha, niqi. C'est quoi, niqi? C'est la moelle osseuse.
Ah oui, subhanallah.
Mouch, elle a avoum. Mouch, elle a avoum. C'est-à-dire qu'il n'a plus de moelle osseuse. Elle est kabira. Donc on n'a pas le droit de la sacrifier. Taïeb. Ahsantou. Ça fait deux conditions. On a cité encore d'autres conditions, non?
Non.
Lesquelles? Lève la main, frère. Bismillah. Mohamed.
Takuna min
bahimat al-am. Takuna min bahimat al-am. Que la bête fasse partie de la famille des. Comment ils traduisent? Les animaux de cheptel. Les animaux de cheptel. Donc on a dit les quatre races, hein? Ovine, bovine, caprine, camélidée. Ça veut dire que si toi, tu as un enfant, par exemple, et tu veux faire la aqiqa, tu n'as pas le droit de sacrifier une poule ou autre chose qu'une poule. Il faut les quatre, forcément, soit un veau, soit un agneau, soit une chèvre, soit un chameau. D'accord? Ça fait trois conditions. Rabia, Quatrième condition, nous sommes là. Quatrième condition, Manik. Sahad. Non? تكون ملكا للمضحي que la bête elle appartienne à la personne. Tu vas pas sacrifier une bête que tu as volée, que tu as extorquée de force à quelqu'un. Dans ce cas-là, ton sacrifice, il n'est pas valide. Il n'est pas valide. Ça fait 4, encore 2.
Là.
Qu'elle ne soit pas attachée à un droit qui appartient à quelqu'un d'autre, comme celle qui a été déposée en gage. En gage, quelqu'un qui emprunte de l'argent, et elle a déposé sa bête en gage. Il lui a dit, voilà, tiens, je te dépose ma bête en gage, le temps que je te rende l'argent. Tu vois ?
Cette bête, elle n'a pas le droit de toucher.
Voilà, elle n'est pas touchée, cette bête-là. D'accord ?
Donc, c'est quoi la condition qu'elle ne soit pas liée
à un droit. Que ce soit un gage ou autre. Ensuite, la dernière. Qu'elle soit égorgée pendant la période légiférée. Par exemple, la dabiha de l'Eid, l'Udhiyya, si tu la sacrifies avant la prière, elle n'est pas valide. Ça serait un sacrifice dans la viande, tu pourras manger la viande, mais ce ne sera pas la récompense de l'Udhiyya, de dabiha de l'Eid. Pareil, si tu la sacrifies après Ayyam al-Tashriq. Donc le temps légiféré, c'est après la prière de l'Eid jusqu'au dernier jour de Tashriq. Le troisième jour de Tashriq. C'est bon ? Hein ? Non, le Maghreb. C'est bon, les frères ?
Non.
Alhamdulillah. Et كذلك, سألتو الشيخ علي رملي فضل الله تعالى أن حكمي ذبيحة حيوان مأكول لحمه لكن ليس من بهيمة الأنعام بنية التقرب إلى الله عز وجل فقط كالدجاجة مثلا فقال الشيخ نعم يجوز بشرط الانتفاع من لحمها بشرط الانتفاع من لحمها إما بالأكل أو بالصدقة أما رمي لحمه هذا لا يجوز. إذا كان الشخص يرمي بلحمه فذبحه ورميه منهي عنه. Donc la question que le frère m'avait posée la semaine dernière, est-ce qu'on peut sacrifier un animal qui ne fait pas partie des quatre familles, des quatre espèces qu'on a citées, une poule par exemple, mais pas avec l'intention de ni l'udhiya, ni l'aqiqa, ni l'hadi, mais avec l'intention seulement de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, de faire un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le shirk c'est permis, à condition que, bien sûr, tu utilises la viande après. C'est pas tu sacrifies uniquement, après tu jettes la viande. Là, il y a chose. Tu sacrifies, bismillah, Allah akbar. Après, soit tu manges la viande, soit tu la donnes en sadaqa. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais si tu le fais pour jeter la viande après, hadala, ça rentre dans le gaspillage. Ce n'est pas permis, ça. D'accord ? Non, alhamdulillah.
Mais ça, c'est à n'importe quel moment
Non, n'importe quel moment. N'importe quel moment.
C'est pas une période
Non, il n'y a pas de période ici. Il n'y a pas les conditions qu'on a citées. Les conditions qu'on a citées, c'est pour l'aqiqa, le dhiya ou le hadi. C'est tout. D'accord ? Tu peux le faire, par exemple, si tu as, comme disent les ulama, tu as reçu un appartement, on t'a donné un appartement ou tu as acheté un appartement, pour remercier Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas sacrifier une bête et tu vas inviter la famille, les inviter à la maison pour sadaqa, etc. Ça, c'est permis, alhamdulillah. Il ne faut pas avoir la croyance, par contre, de sacrifier pour te protéger, pour protéger la maison des djinns. Tu sacrifies pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et après de faire sadaqa avec cette viande-là. D'ailleurs.
Et si c'est quelqu'un d'autre, exemple, qui la sacrifie ? Exemple, tu vas au poulet fermier, c'est lui qui va la couper, tu es d'accord avec moi ?
Non.
l'intention.
Non, pas oublier. Ton intention est suffit. Ton intention est suffit. D'accord. Tant que c'est toi qui es payé la bête, alhamdoulilah, tu peux déléguer quelqu'un à ta place, alhamdoulilah. Il fait mouchkil. C'est bon, les frères. Alhamdoulilah. Et donc, يقول ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. نعم. فالمذكورات هي الهدي والأضحية والعقيقة. وتقدم في الهدي بيان كيفية قسمتها. Donc là on revient à nos trois sacrifices. الهدي c'est pour le pèlerin, d'accord, le tahiya ou la aqiqa. Il dit ces trois-là, on peut manger leur viande, on peut les offrir et on peut faire le monde avec. D'accord.
Le monde
avec, d'accord. Donc on peut la partager en trois. Tu as sacrifié le tiers pour toi, pour la consommer, un tiers pour la donner en aumône à des pauvres, d'accord, et un tiers pour la donner en cadeau à la famille, les proches, les voisins, etc. Taïeb. Non. Et on a vu de toute façon cela déjà dans le chapitre de l'Hadi, comme quoi il était bienvenu de faire ça. Alhamdulillah.
C'est recommandé.
Non, c'est pas obligatoire. Tu peux tout manger, tu peux tout donner. Non. ثم يقول ولا يعطي الجازر أي الجزار أجرته منها لا يجوز بل يعطيه هدية أو صدقة ولا يجوز أن يدفع للجازر. من هو الجازر؟ هو من يقوم على ذبحها وسلخها. من يقوم على ذبحها وسلخها أجرته منها لا يجوز أن يدفع الجازر أجرته من هذه الذبيحة لحديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطي من عندنا نعم بسم الله صلى الله عليه هو جمع بدنة طيب أخرجه البخاري ومسلم وإذا كان الجازر فقيرا فأعطاه منها بنية الصدقة أو كان غنيا فأعطاه بالنية الهدية من غير أجرته جاز ذلك وبانتهاء كتاب الحج تم قسم العبادات ويليه قسم المعاملات وأوله كتاب البيوع وبعض الفقهاء يجعل بعد الحج كتاب الجهاد ملحقا له بالعبادات وهذا كذلك أمر جيد أن تجعل كتاب الجهاد بعد كتاب الحاج لأن الجهاد من أعظم العبادات. طيب. puis il dit à la fin du chapitre concernant donc le pèlerinage et les bêtes, les sacrifices, il dit que on n'a pas le droit de donner en salaire au boucher de la viande que tu as sacrifiée. Tu n'as pas le droit de payer le boucher avec la viande qu'il a sacrifié pour toi. D'accord ? Mais tu peux lui donner, par contre, une partie de la viande, comme on l'a vu tout à l'heure, en cadeau, s'il est riche. Et s'il est pauvre, en sadaqa. Mais son salaire, là, tu n'as pas le droit. Tu le payes, tu donnes son salaire avec ton argent. D'accord ? Par contre, la viande, là, tu n'as pas le droit de le payer avec la viande, cette viande-là. Mais tu peux lui donner en tant que cadeau, si tu veux, ou en tant que sadaqa. mais tu payes son salaire avant. D'abord, tu lui payes, tu payes son travail, le travail que tu as fait, d'accord ? Il te prend, je sais pas moi, 20 euros pour le sacrifice, plus le dépeçage et tout. Hein, tu travailles ça.
Bien sûr.
D'accord ? Tu donnes son argent, 20 euros, et en plus, tu peux lui donner de la viande si tu veux, un cadeau ou un sadaqa. Non. Donc, c'est ça. El-Jazir ou El-Jazzar, celui qui se charge du sacrifice et qui se charge du dépeçage. El-Sadr. Taïeb. Et l'interdiction qu'on voit ici, elle a été mentionnée dans le hadith d'Ali, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de m'occuper de ces bêtes. De ces bêtes à sacrifier. Donc c'est lui qui avait la charge de s'en occuper. D'accord ? Donc al-budn, c'est le pluriel de badana. Al-badana, c'est soit le chameau, soit la vache. Entre dedans les deux. Puis il lui a ordonné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de donner en aumône de ses viandes, de ses peaux et de ses adjillas. Al-adjillas, c'est les tissus, les choses que l'on met sur la monture, sur le chameau. Il y a un tissu dessus qu'on va habiller le chameau avec. Le prophète, il lui a dit à Ali de donner en sadaqa de la viande, de la peau et de ses tissus qu'on peut trouver sur les chameaux. Mais il dit wa alla u'ti al-jazzara minha. Mais par contre, le boucher, lui, on ne lui donne rien de ces choses-là au boucher. Qala nahnu nu'tihi min 'indina. C'est ça veut dire que nous le payons min 'indina, avec notre argent à nous, pas avec la bête, ni avec la peau de la bête, ni avec la viande de la bête, ni avec les choses qui étaient sur la bête. On le paye avec notre argent, et après, si on veut lui faire des cadeaux, alhamdoulilah. Taïeb. C'est pour ça qu'il dit, donc si El-Jazzar, il est pauvre, tu peux lui donner, mais avec l'intention de la sadaqa. S'il est pauvre, tu lui donnes un peu de la viande avec l'intention de la sadaqa. Et s'il est riche, tu lui donnes aussi avec l'intention de El-Hadiyya, d'un cadeau, d'un présent que tu vas lui offrir, après, comme on a dit, lui avoir payé et donné son salaire. D'accord ? Taïeb. Alhamdulillah, c'est comme ça qu'on clôture le chapitre du pèlerinage et, dans le même temps, le chapitre des ibadat, des adorations. Et là, on va entrer dans le chapitre des ventes. El-Buyur, les ventes. D'accord ? Et on rentre en même temps dans ce qu'on appelle al-mu'amalat. On a al-ibadat et on a al-mu'amalat. D'accord ? Donc al-mu'amalat, hiya ahkam shar'iyya mut'allaqa bi umur ad-dunya. D'accord ? C'est quoi al-mu'amalat ? En arabe, on appelle al-mu'amalat. Non ?
Je n'ai pas compris. Quand tu as dit les tissus, c'est quoi? C'est la selle?
Ouais, tout ce qui se trouve sur le chameau. Voilà.
Est-ce que la selle, elle en fait partie?
Non. Tout ce qui est sur le chameau, il y en a, alhamdoulilah. C'est parti de la djinn.
Quand tu dis c'est pour le pèlerinage, j'ai pas compris.
Là, on parlait de sacrifice pour les pèlerins, en fait. Les pèlerins, quand ils font le pèlerinage, ils peuvent avoir un sacrifice obligatoire à faire. Et ce sacrifice, on l'appelle al-hadi.
Et quand tu dis, en fait, c'est
la selle.
Il a désigné quelqu'un qui sacrifie voilà, les bêtes. C'est à lui qu'on doit donner le tissu ou le sur la bête, la peau. C'est à lui qu'il faut donner.
Non. C'est aux gens ou pauvres. Aux pauvres ou aux gens à qui tu veux donner. Ça, c'est le prophète qui va décider. Non.
C'est l'intention.
C'est-à-dire l'intention.
Du moment, il n'y a pas, on va dire. Ce qu'on a sacrifié et ce qu'on veut donner, c'est pas, on va dire, un critère de personne, je sais pas comment expliquer en fait.
C'est pas une chose qui est obligatoire. Déjà, le fait de donner ou d'offrir, ou de donner en aumône, c'est pas obligatoire. C'est bien de le faire. Et si tu veux le faire, allez, tu donnes à ceux qui en ont besoin. Tu connais des pauvres, tu donnes. Taïeb, même si c'est des koufars. Parce qu'ici, il n'y a pas d'obligation. Donc, vu que ce n'est pas une aumône qui est obligatoire, tu peux même la donner à un kafir. Tu as un voisin qui est kafir, tu lui donnes, Inch'Allah.
C'est pas comme celle de Aïd al Subhanallah. Aïd al-Adha. Non, pas Aïd al-Adha, Subhanallah. Nourriture qu'on donne.
Zakat al-Fitr, celle-là, elle est obligatoire, celle-là.
Non, je sais. Mais c'est, tu ne peux pas la donner à des kuffars.
Je t'ai répondu parce qu'elle est obligatoire.
Ah, voilà, smahli.
Tout ce qui est obligatoire, d'accord. Je ne donne pas aux kafirs.
Ah, d'accord.
Que des musulmans.
Sauf pour
les zakat al-Mal,
pour rapprocher à.
Voilà, Klaufik. L'exception, bien sûr. Al-Mu'allafatur ou le bourg. Zakat al-Mal, la zakat obligatoire. Sur les biens. Celle-là, il se peut qu'il y ait des personnes parmi les kuffars qui ont un droit. Parce qu'ils rentrent dans la catégorie Al-Mu'allafatur ou le bourg. Celle à qui on va donner pour les attirer à l'islam. Ou pour préserver leur mal hein, des musulmans, etc., etc. On a vu ça dans le Kitab Zakat. Je vous invite à retourner aux audios, Inch'Allah. D'ailleurs, Al-Muhim, donc, on termine ici, le Mu'amalat, on a dit, Ahkam Shara'iyya Muta'alliqa bi Umur al-Dunya. Toutes les règles religieuses qui sont liées aux affaires de la dunya, aux affaires de ce bon monde. D'accord ? C'est-à-dire qu'à la base, ce ne sont pas des adorations en soi. Toi, quand tu vends un objet, ou quand tu achètes un objet, ce n'est pas une adoration en soi. D'accord ? Donc, ça concerne toutes les règles religieuses qui tournent autour des contrats. Contrats de vente, contrats d'achat, contrats de location. D'accord ? On va rentrer dans ça maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on a clôturé le chapitre des ibadat. Des adorations, Alhamdulillah. Puis il dit ici, donc le premier chapitre des Mu'amalat, c'est le chapitre concernant les ventes, al-buyu', le commerce, les ventes. Certains fuqaha, juristes, ils ont mis le chapitre, juste après le chapitre du pèlerinage, ils ont mis le chapitre du djihad, de la lutte dans le sentier d'Allah, d'accord ? Des règles qui concernent la guerre, voyez ? Ils les ont mis directement après le chapitre du pèlerinage. Parce qu'ils considèrent que c'est une ibad. Et c'est une ibad. C'est l'une des plus grandes adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vrai que le fait de le mettre après le hajj, c'est bien aussi. Al-Muhim, le shir, lui, l'a mis après. Tayyib. Qala huna kitab al-buyu'. Al-ulama yabda'una kama ra'aytu tasanifahum bil-ibadat. Tayyib. ثم المعاملات ثم الأنكحة ثم بما يتعلق بالدماء ثم القضاء. Donc les ulama, pour résumer un peu ce qu'on a vu et pour résumer aussi comment les savants du fiqh ils vont classifier les chapitres dans leur livre, vous remarquerez que ils commencent tous par les adorations, al-ibadat, tout ce qui est adoration. Après les adorations, al-mu'amalat, al-mu'amalat, tout ce qui est lié aux affaires de la dunya. Puis on a al-ankiha, les mariages, les contrats de mariage. On va le voir ça aussi, important, très important. Puis après les mariages, on a tout ce qui concerne yani al-dima, le sang, d'accord ? Et après ça, al-qada, tout ce qui concerne la juridiction, les jugements. Voyez, alhamdulillah. Fa bada'u bil ibadat. Limada? Limada bada'u bil ibadat? Li'annaha hiya allati khuliqa al-insanu li ajliha. Donc il commence par quoi? Par les adorations. Pourquoi Moussa? Il commence par les adorations et pas par les mu'amalat ou le nikah. Hein, les frères? Pour ceux qui n'ont pas compris l'arabe.
Hein?
Parce
que c'est le but de la création.
Non, parce que c'est le but de la création. C'est l'objectif premier de la création des humains et des djinns. Hassan. Donc c'est pour ça qu'ils commencent leur livre de fiqh tout le temps par l'ibadat, la salat, avant la salat, tahara, la purification et tout. Parce qu'on a été créé pour ça. On ne va pas commencer par le commerce. Tu vois ce que je veux dire? بدأوا بالصلاة في هذه العبادات، بدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأن الطهارة هي من شروط الصلاة. طيب، فالطهارة فيها تنزيه والنزاهة. Et parmi toutes les adorations, vous remarquerez qu'il commence par quoi ? Par la prière. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est la plus importante des adorations. La plus importante. Et avant même la prière, en vérité, ils vont parler de At-Tahara, la purification. Pourquoi ? Parce que la purification, c'est une des conditions de la prière. S'il n'y a pas de Tahara, il n'y a pas de prière. D'ailleurs, s'il n'y a pas de Tahara, il n'y a pas de prière. Même quand on dit tahara, c'est pas juste le fait d'apprendre comment faire le wudu ou comment faire le ghusl, mais c'est aussi comment se nettoyer quand vous allez faire vos besoins, comment vous purifier. Hein? Est-ce que c'est permis de le faire avec autre chose que de l'eau? Est-ce que on peut le faire avec du papier? Est-ce que si? Est-ce que ça? Hein? Combien de fois? Naam, les conditions.
Non. Les annulations.
Ce qui, ce qui va annuler aussi la purification de la personne. C'est quoi une impureté? Qu'est-ce qu'on considère comme étant une impureté, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit apprendre et qu'on doit enseigner pour ceux qui ont des enfants, à nos enfants. Parce que si tu enseignes à ton fils comment prier, mais que miskin ne sait pas se nettoyer quand il va aux toilettes, ou il se nettoie mal, il ne sait pas lui. Eh bien, sache que plus tard, sa prière, peut-être elle sera invalide à cause de ça. D'abord, apprends-lui à se nettoyer correctement. Eh non. Taïeb. Alhamdulillah. Il commence donc par la purification, pour que la personne se débarrasse de ses impuretés, de ses souillures. Et puis après, elle apprend à faire la prière. فَأَتَّرْتِيب السَّلِيم أَنْ يَبْدَى أَوَّلًا بِتَطَهُرُ ثم بعد ذلك يبنى عليه. ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي أن يخلي المكان من الأذى ثم يحلى بعد ذلك. Donc l'ordre qui est adéquat, qui est correct, c'est que l'auteur commence par la purification. Et puis, après la purification, il va construire par-dessus. C'est pour ça que les ulama, parmi leurs expressions souvent utilisées par eux, ils disent « At-tahliya qabla at-tahliya ». At-tahliya, c'est le fait de débarrasser un endroit. D'ailleurs, par exemple, toi tu veux refaire la décoration d'une maison. Qu'est-ce que tu vas faire avant de mettre une nouvelle déco? Tu vas tout débarrasser, tu vas tout enlever. Maintenant, tu veux refaire la cuisine en entière. Tu vas tout enlever dedans, tous les meubles, les placards, les ci, les ça. Et après, tu vas refaire la cuisine. Là, tu vas vider. Et après, tu vas remplir, tu vas décorer, tu vas construire. Hein? On peut dire aussi la démolition avant la construction. D'abord, tu démolis, comme vous avez fait là. Et après, tu construis, tu peins, tu mets. Hein? Wahakada. Tahliya qabla tahliya. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. D'ailleurs. Wa ba'da idhan as-salat, dhakaru az-zakat. Az-zakat, li'annaha akadu arkan al-islam ba'da as-salat. Après la salat, après tahara, as-salat, az-zakat. Pourquoi? Parce que az-zakat, c'est le pilier le plus important, qui a été le plus appuyé après la salat, c'est la zakat. Et après la salat, as-siyam. Siyam au Ramadan. D'ailleurs, li'annahu huwa ruknu ar-rabi'. Après le quatrième pilier, c'est quoi? C'est le jeûne de Ramadan. Thumma al-hajj. Et après le pèlerinage. Donc ça, c'est l'ordre qu'on a vu. Jusqu'ici, c'est ça. On avait Tahara, As-Salat, Az-Zakat, As-Siyam, Al-Hajj. On a fini aujourd'hui, alhamdulillah. Ça veut dire que l'imtihan, il va arriver, Inch'Allah. L'examen va arriver bien la ta'ala. Donc ça va concerner Al-Zakat ou Al-Hajj. Eh non, aussi. Il a parlé aussi de... Après ça rentre un peu dans le janaza, ça. Dans le salat. Dans le faire de la salat. Le janaza, tout ça. Non. Voyez. Kitab al-Buyur. Alhamdulillah. Nadkhul fi kitab al-Buyur. البيوع جمع بيع وهو مبادلة مال بمال. ما هو البيع؟ مبادلة مال بمال لغرض التملك. طيب. Donc on commence le chapitre intitulé le chapitre des ventes. Donc البيوع c'est le pluriel de البيع, la vente. Une vente, on dit بيع. Des ventes, bouyoun. Et c'est quoi une vente? Dans la définition religieuse, qu'est-ce que c'est une vente? C'est le fait d'échanger un bien par un autre bien. Échanger un bien par un autre bien dans l'objectif de l'acquérir. Dans le but de l'acquisition. At-tamalluk. Acquisition. C'est bon? Hada wa al-bayru. Faqala na. مبادلة مال بمال لغرض التملك لغرض التملك فالأصل فيها الحلم بحمد الله قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. طيب. الأعيان جمع عين وهو المعين الذي يشار إليه وليس الموصوف في الذمة والعقار اسم لما لا ينقل العقار اسم لما لا ينقل كالدور والأراضي والمزارع وتسمى هذه الأشياء عقارا لأنها معقورة لا تتجاوز مكانها لا تنقل وقيل لأنها تعقر المال من الضياع تعقر المال من الضياع والحيوان اسم للبهائم والدواب ويشمل الطيور كذلك والأثاث يغلب إطلاق هذا الاسم على الأمتعة التي ينتفع بها كالفرش والثياب والأواني والأطعمة وما أشبهها. Puis il dit donc la base dans le commerce, dans la vente et l'achat, c'est que c'est permis, alhamdulillah, c'est licite. Car Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre, dans le sens rapproché, et Allah vous a rendu licite la vente et vous a interdit l'intérêt, le riba. Donc toutes les choses déterminées faisant partie par exemple des aqar, on verra c'est quoi la aqar, des hayawan, des athaf et autres que cela, il est permis de faire un contrat sur ces choses-là. Et le contrat de vente, il sera valide à condition que toutes les conditions de la vente soient respectées. On les verra, inch'Allah, les conditions. Donc, al-a'yanu, c'est le pluriel de ayn, d'accord ? C'est un objet yani, déterminé, alhamdulillah. Un objet déterminé que l'on peut toucher, que l'on peut voir et palper. D'accord ? Tayyib. Donc, c'est quoi l'aqar ? Le terme al-aqar, les frères, ça va désigner un bien immobile. Un bien immobile. Ou immobilier, si vous voulez. D'accord ? Comme par exemple, les maisons, les terres, les champs. Tout ça, c'est des biens immobiles. Tu ne peux pas déplacer. D'ailleurs, donc ils ont été appelés comme ça. Pourquoi ? Pourquoi on les a appelés aqar ? Parce que
ils sont ma'qura. Ma'qura, c'est-à-dire ils sont immobilisés. Ma'qura, immobilisés. Ils ne peuvent pas être déplacés d'un endroit à un autre. Vous voyez ? Certains disent aussi, on les appelle comme ça parce que c'est comme si on immobilisait l'argent du gaspillage. On les a immobilisés. On a préservé, on a protégé ce bien-là pour pas qu'il se perde. D'accord ? Donc ça, c'est l'aqar. Puis on a le hayawan, les animaux. Donc les animaux aussi, comme les bêtes, les troupeaux, les bêtes des cheptels, hein, les montures, etc., etc. Et les oiseaux rentrent dedans aussi, les toyour, font partie des choses sur lesquelles on peut établir un contrat de vente. Sauf exception. Sauf exception parmi certains animaux. Al-athathu, les meubles. On peut traduire par les meubles, mais c'est un nom ici qui va désigner tout ce qui est utile, hein, dans une maison, comme par exemple ce qui va servir à revêtir le sol, les tapis, les canapés, les sièges, les fauteuils, les vêtements, les récipients, la nourriture, et autres que cela parmi Al-FF. D'accord ? Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, alhamdulillah. Al-An, شروط البيع. أولا العقود هو جمع عقد. العقود جمع عقد كالبيع والإجارة والسلم ونحوها. وشروط البيع ستة احفظوها. منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه. فإذا فقد منها شرط واحد لم يصح البيع كما سيأتي وحفظ هذه الشروط وفهمها مع أدلتها سبب عظيم لإتقان فقه المعاملات عموما. Puis il dit les contrats, en arabe on dit al-uqud, c'est le pluriel de aqd. D'accord ? Parmi les différents contrats, la vente, la location, salam, c'est le fait d'acheter quelque chose et de payer en avance. Le fait de payer en avance, et la personne elle te dit, je te livre la marchandise à telle date. Hada salam. En arabe, on dit salam. D'accord ? Et autre que cela parmi les contrats. Maintenant, on va citer donc les conditions, Inch'Allah, de la vente. Ils sont au nombre de 6. Parmi ces 6 conditions, il y en a certaines qui vont concerner l'aqidain. Ce qu'est l'aqidain, eh bien, c'est les deux parties. Le vendeur, l'acheteur. Le loueur, le locataire. D'accord ? Les deux parties. Et parmi ces conditions-là, certaines vont concerner al-ma'qud 'alayh. La chose sur laquelle on établit un contrat, l'objet, l'objet en lui-même, la maison, la terre, etc. D'accord ?
Non.
Et s'il vient à manquer une de ces 6 conditions-là, la vente n'est pas valide. Elle n'est pas valide. Écoutez bien, les frères. Puis il dit, donc le fait d'apprendre ces conditions-là, de les comprendre avec leurs preuves, etc., eh bien c'est une cause énorme pour nous de perfection dans justement ces transactions et ces contrats de manière générale. Vous voyez, pour pas que, sans le savoir, on fasse des contrats qui ne sont pas valides. D'accord ? Non. Non ?
On contente d'un péché.
Eh bien sûr. Non. Donc là, ça, surtout pour ceux qui sont dans le commerce, hein, c'est une obligation religieuse pour eux d'apprendre ces conditions-là. طيب. فمن أعظم الشروط أولا الرضا. الرضا. لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية يا أيها الذين آمنوا Hein? لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالشرط الأول أن يحصل التراضي بين العاقدين، فإذا أكره أحدهما على البيع بغير حق فلا يصح العقد. والدليل على هذا الآية المذكورة وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض، أخرجه ابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد إسناده الصحيح ورجاله موثقون، وروى ابن حبان في صحيحه. Donc première condition, parmi les conditions les plus importantes, la première, c'est le consentement mutuel entre les deux parties. Car Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit ? Dans le sens rapproché, ô vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens entre vous, bil batil, injustement. Illa, sauf, sauf si c'est du commerce, avec un consentement mutuel des deux parties. An-Nisa, verset 29. Donc la première condition, qu'il y ait donc ce consentement-là entre les deux parties, entre les deux contractants. D'accord ? Ceux qui font le contrat, les deux parties, on les appelle les contractants. Non. Ça fait que si l'un des deux parties, il est contraint, on l'a forcé à acheter ou à vendre injustement, le contrat n'est pas valide. S'il y a une contrainte, il n'est pas valide. Hein? La preuve, donc, le verset qu'on a mentionné, et également le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le commerce ne peut se faire qu'avec consentement mutuel. » Taradin. Taradin, consentement mutuel.
Quand tu parles de contrat, tu parles de contrat verbal ou de contrat...
Les deux. Les deux. Non, un contrat, ce n'est pas forcément écrit. Ça peut être un contrat verbal. Je t'achète, je te vends. C'est un contrat.
Donc, ils se sont mis d'accord.
Non, c'est ça. Des fois, il n'y a même pas de parole, des fois. Des fois, il n'y a même pas de parole. Tu rentres chez le vendeur, tu lui dis, donne-moi 10 kilos. 10 kilos. 1 kilo. 1 kilo de... Hein, de merguez. 1 kilo de merguez. Et le vendeur, le boucher, des fois, il ne parle même pas. Tiens, tac, tac, prends les sous, c'est bon. Le contrat, il est bon, c'est bon. Voilà, c'est le off. C'est connu que là, le contrat, il est fait.
Il y a le prix aussi annoncé, non ? Ça, c'est pas obligatoire ?
Le prix, on va voir, Charles.
Ah, d'accord.
En général, il écrit le prix dessus.
Wow.
Ouais.
Ça dépend.
Après, il faut demander, après, il faut demander.
Des fois, le prix est sur la tête.
Donc, le hadith est authentique, alhamdulillah. Il a été rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban. الشرط الثاني والثالث. الثاني والثالث. وأن لا يكون فيها غرر وجهالة. الغرر هو الخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند وجوده. ومن هذا نأخذ شرطين. هما أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقدين. أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقدين، وأن يكون مقدورا على تسليمهما، وهذان هما الشرط الثاني والثالث. فلا بد أي أن تكون السلعة والثمن معلومين للبائع والمشتري، إما برؤية المبيع كله أو بعضه الذي يدل على باقي، أو بوصف تنتفي معه الجهالة بحيث يذكر كل ما يختلف به الثمن غريبا، ولا بد أن يكون المبيع والثمن مقدور على تسليمها، أنك تكون قادرا على تسليمها وعلى آخرها. أما إذا كان المعقود عليه مجهولا أو غير مقدور على تسليمه فإن البيع لا يصح لأنه يفضي إلى الغرر. طيب. Deuxième et troisième condition, il ne faut pas que l'objet du contrat comporte ce qu'on appelle un gharar et une jahala. Un gharar et une jahala. Donc le gharar, c'est quoi le gharar? C'est la tromperie. D'accord? C'est une tromperie. Donc de cette phrase-là, on tire deux conditions. Il dit les chers. La 2 et la 3. On a vu la première, c'est... C'est quoi la première condition? C'était Ar-Rida, le consentement. La 2 et la 3, c'est quoi? Premièrement, le fait que l'objet concerné par le contrat et le prix soient connus. Il faut qu'ils soient connus. D'ailleurs, l'objet qui est vendu ou qui est loué et le prix aussi, il faut qu'ils soient connus. C'est pour ça que certains mashayikh comme Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit que les buffets à volonté, c'est interdit les buffets à volonté. Pourquoi c'est interdit les buffets à volonté? Parce qu'on connaît le prix, mais on ne sait pas ce que tu vas manger. Il se peut que tu manges pour une personne, mais tu peux manger pour 10 personnes. Vous voyez? Bon, en général, ils savent à peu près combien tu vas manger. Ils sont jamais perdants, alhamdoulilah. C'est rare qu'ils soient perdants, à moins que... Allah m'a béré que tu manges. Ils ne le feraient pas. Mais malgré ça, certains chers comme Cheikh Al-Fawzan, ils disent, vu qu'on ne connaît pas la quantité que tu vas manger, Adala Yadjouz. D'accord?
Donc c'est interdit aussi, par exemple, d'acheter un conteneur, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Un conteneur cadeau, là. Un conteneur surprise.
Une vente de conteneurs, mais au contenu inconnu.
Il se peut que tu sois perdant ou tu peux être gagnant. Dans ce cas, c'est du gharar. Si tu es gagnant, c'est un gharar pour lui, pour le vendeur. Et si tu es perdant, c'est un gharar contre toi.
Ou il se peut que ça soit haram ce qu'il y a dedans.
En plus. Non, c'est autre chose, ça, vente aux enchères. Non, ça ne rentre pas dans ça.
J'ai une question concernant ce que tu as dit il n'y a pas longtemps. Tu as dit exactement que les buffets à volonté, c'est interdit.
Il n'y a pas de temps, là.
Dans 5 minutes.
Même pas, non, moins.
Comme tu as dit, les buffets à volonté, c'est interdit. Dans le sens où ce que tu vas manger, ça ne correspond pas au prix que tu as mis ou...
Non.
Plus,
c'est ça. En fait, par rapport à la condition qu'on a mentionnée, qui est que l'objet que tu vas acheter, il faut qu'il soit connu. Que ce soit sa nature, sa forme, sa couleur, mais sa quantité aussi. Donc, tu ne peux pas acheter quelque chose dont tu ne connais pas la quantité. Tu vois ? Si tu arrives au magasin, au restaurant, tu lui dis, voilà, je vous donne 20 euros, mais voilà, dites-moi ce que je vais manger. Vous allez manger un plat, une entrée, un dessert et une boisson. Alhamdoulilah. Mais si tu rentres et tu peux manger ce que tu veux, dans ce cas-là, il n'y a pas la quantité ici qui est déterminée. Il faut déterminer la quantité et ce que tu vas manger. C'est bon? Non. Ça, c'est la première condition.
Est-ce qu'on a un hadith à ce propos de l'objet et le prix?
Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Espérons, patientez, Inch'Allah. Jahala. Jahala. Tayyib. Ensuite, deuxième condition, il faut que la chose que tu achètes, la deuxième parmi les deux, en tout c'est la troisième. Que tu aies la capacité de l'acquérir. Par exemple, si on te dit je t'achète un poisson qui est dans la mer. Tu n'as pas le droit d'acheter un poisson dans la mer. Et celui qui te dit, moi je te vends un poisson dans la mer, il n'a pas encore pêché. Il est dans la mer le poisson. Il n'a pas le droit. ou je te vends un oiseau. L'oiseau, il est encore dans le ciel. Il n'a pas encore chassé. Il n'a pas le droit aussi, d'accord? Donc, il faut qu'il te vende quelque chose que tu peux acquérir. Sans risque. Parce qu'il y a un risque là. C'est vrai, il peut pêcher après. Il y a des poissons dans la mer, mais il y a un risque. On ne sait jamais. Il n'arrive pas. Ou il te pêche un poisson que tu ne voulais pas. Hein? Donc, il faut, voilà, cette condition-là qui est qu'il soit, que tu sois dans la capacité de l'acquérir. Donc là, on a la condition 2 et la condition 3. D'accord? Donc, en résumé, il faut que la marchandise, ainsi que son prix, c'est pas que la marchandise, mais le prix aussi, il faut qu'il soit connu, bien sûr, auprès du vendeur, comme auprès de l'acheteur. Même si la marchandise, elle n'est pas devant l'acheteur, d'accord? Il peut lui montrer en photo, par exemple, c'est permis. Il va lui montrer la photo, l'image de l'objet. Voilà, je te vends telle voiture, regardez vers la voiture, d'accord? Ou une partie de la voiture, je ne vais pas tout lui montrer, pour lui montrer une partie de la voiture, et lui va deviner que le reste, c'est comme si c'est comme ça, alhamdoulilah. Ou alors, il va lui décrire. Il va lui dire, la voiture, elle est comme ci, elle est comme ça, d'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive à voir la voiture, et elle est vraiment précise qu'il a achetée. Voyez? Non. Afin qu'il n'y ait pas de confusion entre cette voiture-là et une autre, par exemple. Donc, il faut que la description soit quand même précise. Voyez? Bon?
Et si, par exemple, on achète une maison, hein? Cette maison, on peut l'acheter pour raison, par exemple, pour ne pas faire de crédit. D'accord. Et s'il y a une autre personne, lui qui a les moyens, il dit, moi je t'achète cette maison-là, il achète cette maison-là, et nous la vend plus cher à nous. De ce qu'elle est en fait. Par exemple, je ne sais pas, 5 000 euros, le gars il achète cette maison-là, et à nous il la vend à 150.
C'est un bon lui. C'est du commerce.
Non mais si il achète plus cher, il fait riba caché en fait.
En fait, c'est ça.
C'est ça qui te parle.
Si la personne est au courant, c'est une nouvelle chasse, ça t'arrive.
Ouais, c'est un nouveau crédit, ça, qui est au bled.
Pour pas faire de
crédit. Chauve. Pour pas faire de crédit.
Pour pas faire de riba.
Ils font pas de riba. Ils veulent acheter une maison. Ils ont pas les moyens de l'acheter. Il y a quelqu'un qui vient.
La banque.
Ou la banque, en fait, c'est une banque. Elle vient, elle achète la maison pour la personne. Elle lui vend plus cher que son prix sur le marché. Et lui, il la paye par mois.
Et l'intérêt, il est dans le plus cher.
En fait, c'est un river. C'est juste qu'il s'est caché.
Non, tu ne m'as pas dit la banque, toi. Tu m'as dit une personne.
Ouais, la banque, une personne. Imagine la banque.
Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La banque, si tu arrives, et que la banque, elle a déjà des maisons, elle a déjà acheté des maisons. Toi, tu viens, tu dis, ouais, moi, je veux cette maison-là. Mais là, c'est du commerce, ça. C'est une vente.
Mais si elle a fait
exprès. Elle n'a pas acheté.
Non, mais si elle a fait exprès.
Elle n'a pas acheté. Ah, c'est autre chose.
Oui, mais si elle a fait exprès, par exemple, même, allez, on va dire, elle fait ce que tu as dit. Mais que elle, c'est son but. En fait, de cacher riba, tu vois.
Qui elle?
La banque. Ce qu'ils font là maintenant.
Non, mais je t'ai dit, si la banque, elle possède déjà des maisons.
Non.
Elle a acheté des maisons. Elle a acheté 10 maisons.
Ils sont bien. Ouais.
Elle a acheté 10 maisons. Après, elle vend ses clients. Il est où le problème?
D'accord.
Mais en fait, donc, là,
c'est pas ça.
Excusez-moi, non, c'est, voilà, la question elle est simple. C'est qu'une maison, elle fait 5 000 euros, la banque elle vient, elle achète ce bien. En fait, nous on s'arrange avec la banque en disant voilà, moi je veux cette maison-là.
Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ça c'est autre chose.
En fait, elle te l'achète.
Oui, c'est ça, j'ai compris. Donc en fait, mais elle te l'achète parce que toi tu lui as dit de l'acheter. Là c'est autre chose.
Exactement.
Si elle a acheté exemple 100 000 euros, elle a acheté la maison 100 000 euros et à toi tu l'as fait à 150 000. Elle a le droit. Mais c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent la banque de toute façon.
Eh oui. On a dit. Si la banque, avant même qu'elle sache que toi tu veux acheter une maison, elle a déjà des maisons, elle a acheté des maisons pour les mettre en vente. Ça c'est du commerce.
Elle est vendue à prix qu'elle veut.
Ça, c'est les prix au privé, prix qu'elle veut. C'est du commerce. Par contre, si toi, tu arrives dans la banque, tu lui dis, moi, je veux acheter cette maison-là, celle-là, mais je n'ai pas les moyens. Et la banque, elle te dit, bon, ça va, nous, on va l'acheter et on va te la revendre plus cher. Yeah. Et tu nous payes petit à petit. Ça, c'est autre chose. D'accord? Allahu alam. Allahu a'lam, c'est autre chose. D'accord ? On ne parle pas de ça. On parle du commerce. Le commerce, c'est quelqu'un, il a des biens et il les vend.
Et ici, exemple, elle a acheté, comme tu as dit, tu vas voir la banque, vu que tu n'as pas les sous, c'est elle qui l'achète. Donc, du coup, elle met 100 000 euros, mettre le fait, elle laisse 100 000 euros, toi, tu te rembourses. Là, c'est valable.
Si elle te l'achète et te le vend au même prix,
ouais,
là, c'est bon.
Là, c'est bon.
C'est vrai que le truc.
Là, c'est bon. Mais là, je ne connais pas de banque qui font ça. Sinon,
il ne faut pas ça.
C'est pour ça que j'ai Allahu A'lam. Allahu A'lam, mais on ne parle pas de ça. Et c'est mieux quand on ne sort pas du sujet, les frères. On ne sort pas du sujet, Inch'Allah. Payem. Donc, il faut aussi. Troisième condition, il faut aussi que la personne ait la capacité de l'acquérir, de l'obtenir, quand elle le veut. C'est pas genre, oui, vas-y, mais attends, il faut que j'aille chasser d'abord dans la forêt. Là. Hein?
À ce moment-là, la personne, elle vend quelque chose qui ne lui appartient pas.
Une chose qu'elle n'a pas. Une chose qu'elle n'a pas. Tu ne vends pas une chose que tu n'as pas. Et que tu n'es pas... Tu n'as pas la garantie de l'avoir. Il y a un risque là. Il y a un risque de ne pas avoir l'objet que tu as acheté. Voyez ? Donc, si la chose sur laquelle on a fait un contrat, cette chose-là, elle est inconnue, ou cette chose-là, il y a un risque de ne pas l'avoir et de ne pas l'obtenir, eh bien la vente, elle ne sera pas valide. Car cela, ça va induire à ce qu'on appelle... Al-gharar. Que ce soit contre l'acheteur ou contre le vendeur. Il y a un gharar ici. D'accord ? Alhamdulillah. Thumma yaqul li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha 'an bay' al-gharar. Rawahu Muslim. Hadha huwa al-hadith. Akhrajahu Muslim min hadith Abi Hurayra. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. Donc la preuve, c'est quoi la preuve? Abu Khadija, c'est quoi la preuve?
C'est d'après Abu Hurayra. Abu Hurayra,
le Nabi صلى الله عليه وسلم
a agi. Il a interdit
la vente
d'entourloupe.
C'est pas vraiment ça. Non. Déjà, la première chose qu'il a interdit ici, c'est bay'ul hasat, la vente avec les cailloux. C'est quoi la vente avec les cailloux? On va le voir après, Inch'Allah. Mais en fait, le fait de. Par exemple, tu vends une terre. Tu vends une terre, tu donnes un caillou à la personne, à l'acheteur. Tu lui dis, lance le caillou, d'accord? Moi, je te vends pour, je sais pas moi, 10 000 euros. Je te vends la superficie. Que le caillou que tu vas lancer, il va atteindre. Donc s'il lance le caillou, mashallah, il lance loin, mashallah, c'est plus qu'il gagne 1000 mètres. Voilà. Non, c'est abusé, 1000 mètres. Voilà. 100 mètres, 200 mètres. D'accord ? Mais s'il est fatigué, il va gagner. Peut-être il va acheter 50 mètres, parce qu'il a 20 mètres. D'accord ? Ça, c'est pas permis. Bayl Hassad.
Ça se faisait, ça.
S'il en parle, c'est que ça se faisait.
Ajib.
Wa'an Bayl Gharar. Et le gharar, qu'on a vu juste avant, le fait de vendre une chose qui n'est pas connue, ou une chose dont le prix n'est pas connu, ou une chose que tu risques de ne pas pouvoir acquérir. D'accord ? Non. Adhinu, Inch'Allah.
C'est très facile. C'est pas compliqué. C'est ouvert.
C'est un business.
Pourquoi je voulais te dire la chèvre?
Je repasse juste.
Tu as dit celle qui n'a pas la monnaie pénière. Mais comment tu fais pour savoir?
Tu le vois,
elle est vieille.
Elle est maigre, elle est très maigre.
Elle a plus de monnaie pénière.
Donc elle ne bouge pas.
Donc la vieille, en fait.
Elle est très âgée. Très, très âgée. Parce qu'on a vu la date, l'âge minimum, on n'a pas vu l'âge maximum. L'âge maximum, c'est ça, c'est quand t'as la bête.
Et celle-là, tu la laisses mourir, tu ne la manges pas.
Tu t'en occupes, mais tu
ne peux pas la sacrifier. Non, je veux dire, tu ne peux pas la sacrifier.
Non,
tu prends n'importe quoi, tu ne peux pas. À part si tu n'as que ça et que tu veux manger.
Non, pour des conditions de notre vie.
Voilà, ouais. Voilà, les autres, après, c'est autre chose.
Après, c'est pour la manger. Que ça vient de les comestibles de là.
Ah d'accord, c'est que pour cela.
À condition que la viande soit comestible, si la viande va te tuer, là.
Non.
La tartelone, il faut ça comme.
Non.
Abou Khalil.
Salam
alaykum.
La vente par le
caillou. Ahsant. Et la vente de El Gharar. El Gharar. On a vu El Gharar, c'est la deuxième condition. C'est pas vraiment ça, une vente. Comment on pourrait traduire ? Tromperie, ouais, une tromperie.
Une tromperie.
طيب ثم يقول فيدخل فيه بيع الآبق والشارد فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض الأمثلة على شرط الثاني والثالث حتى يكون واضحا لنا شرطها والآبق ما هو الآبق هو العبد الهارب من سيده والشارد يطلق على البعير والدابة التي نفرت من أهلها وهربت طيب فمثال ذلك إذا باع شخص جملا لكن جملا شاردا وقيمته قبل شروطه 100 ريال 100 ريال أو أورو وباعه حال شروطه 50 حال شروطه 50 ففي هذه الحال إما أن المشتري يجد الجمل بسهولة فيكون رابحا ويكون البائع خاسرا أو لا يجده المشتري فيكون خاسرا هو ويكون البائع رابحا فهذا غرر هذا غرر يفضي إلى النزاع وقد جاء في هذا الدليل خاص وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف وقال البيهقي وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عند مسلم لأبي هريرة نعم. Donc ici il dit ici rentre dans la deuxième et la troisième condition qu'on a vu el gharar et el jahala. Le fait de vendre un esclave qui s'est échappé. Un esclave qui s'est enfui, d'accord ? On appelle abiq en arabe. Ou une bête qui s'est enfuie, on appelle shérit. Donc là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il commence à mentionner des exemples. Et ça, c'est bien, comme ça, on comprend bien. Parce que des fois, quand on parle juste de la théorie, c'est des fois difficile à comprendre. Alors qu'avec un exemple, c'est directement plus clair. Donc un abir qu'on a dit, c'est l'esclave qui s'est enfui de son maître. Il s'est échappé. D'accord ? Et un shérit, c'est un mot qui va désigner soit la chamelle ou une bête qui s'est enfui aussi, qui s'est échappé. D'accord ? Exemple. Une personne vend son chameau. Mais il s'est échappé, son chameau. Il va voir quelqu'un, il le vend. Il dit, moi, je te vois mon chameau. Le chameau, ça y est, il est parti. Il ne sait pas où il est. Hein? Et il te dit, je te le vends 100 riyals. Ou 100 euros, si vous voulez. 100 euros. Hein?
Tu le cherches, toi.
Voilà. Mais il lui dit, mais il s'est échappé. Donc, vu qu'il coûte à la base 100 euros, je te le vends 50 euros. 50 euros. Et comme ça, alhamdoulilah. Dans ce cas-là, donc, soit l'acheteur, il va le retrouver facilement. Il se peut qu'à peine il sort, il le retrouve, il est devant. Là, il a tout gagné, l'acheteur, machin. Il a gagné 50 euros, sans effort. D'accord ? Dans ce cas-là, l'acheteur, il est gagnant, mais le vendeur, il est perdant. D'accord ? Ou, inversement, l'acheteur, il galère, il n'arrive pas à le trouver, peut-être au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, d'accord ? Dans ce cas-là, c'est lui qui est perdant. Et c'est le vendeur qui est gagnant. D'accord ? Dans tous les cas, il y a un gharar pour l'un ou pour l'autre. Il y a un gharar ici. Et qui va amener ce genre de choses-là à des disputes. Et des discordes entre le vendeur et l'acheteur.
Il y a un problème.
Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça que les ulama disent que l'assurance, c'est interdit l'assurance. Pourquoi l'assurance est interdite ? Parce que l'assurance, là, tu vas payer pour assurer ta voiture. C'était rien arrivé dans le monde. Toi, mashallah, tu roules, Allah mabarak, Allah t'a préservé. Il t'arrive rien pendant 20 ans. Combien tu as donné pendant 20 ans dessous ? Il t'est rien arrivé. C'est lui son gagnant. Et inversement, tu as payé. 3 jours après, il t'arrive un truc. Hein, et il te rembourse, je ne sais pas combien. Là, ils sont perdants. Hein, voilà. C'est pour ça que ça amène à des escroqueries après. Et déjà, ils vont faire des coûts d'assurance. Justement, pour profiter du système, en fait. Malheureusement. D'accord ? Ceux qui ne craignent pas Allah, Jalla wa'ala, ils vont faire des coûts comme ça. Allah musta'an. D'accord ? C'est pour ça que l'assurance, donc, c'est interdit pour la même raison. Non.
Vous êtes obligé de faire le tir, quand même.
Hein ? Après, nous, en France, il y a une obligation. C'est on n'a pas le choix. Si tu ne le fais pas, il y a des problèmes. Donc, tu le fais avec l'intention qu'on t'a pris cet argent-là injustement. Injustement. Inch'Allah, bien là, il y a mon qiyama, tu le récupères, Inch'Allah.
C'est
On a un hadith qui n'est pas authentique. Rapporté par Ibn Majah, selon Abu Sa'id al-Khudri, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'acheter ce qu'il y a dans le ventre de l'animal. Donc la bête qui est enceinte. Elle est enceinte, le propriétaire, il n'a pas le droit de dire, moi je te vends le bébé qu'il y a dans le ventre de la bête. Vous voyez ? Ça n'a pas le droit. Ça rentre dans le gharar aussi. Parce qu'il se peut que la bête, que le bébé il meure dans le ventre, d'accord ? Et là, c'est toi qui es perdant, c'est l'acheteur qui est perdant. Il se peut qu'il y ait au contraire des jumeaux, ou là, deux, trois bêtes, et là, c'est l'acheteur qui est gagnant, et pas le vendeur. D'accord ? Donc, il y a un rara. Puis également, il a dit, il est interdit de vendre ce qu'il y a dans les mamelles de la bête. Donc, le lait. Le lait, il faut que tu le sortes d'abord avant de le vendre. Tu dis pas, je te vends ce qu'il y a dans la mamelle, pourtant. Et est-ce que le lait, il va être bon ? Est-ce qu'il y en aura beaucoup ? Est-ce qu'il n'y en aura pas beaucoup ? Tu sais pas, Allah alam. D'accord ? Non. Et également, après la fin, il le fait d'acheter un esclave alors qu'il s'est enfui. C'est pareil. Le hadith, il est faible, mais malgré ça, l'imam al-Bayhaqi, il dit que les interdictions qu'il y a dedans, eh bien, en fait, ça rentre dans le hadith authentique qu'on a vu tout à l'heure d'Abu Huraira, qui dit « Naha an bayl gharar ». Le prophète, il a interdit la vente de Al-Gharar. Et dans Al-Gharar, tu peux faire entrer ce qui a été mentionné, le fait de vendre un bébé dans le ventre, le fait de vendre du lait qui est pas encore sorti, etc. Ça s'entend. Le hadith authentique rapporté par Muslim. Donc le sens du hadith, il est bon, alhamdoulilah.
C'est-à-dire Gharar et le caillou aussi. Comment on dit le caillou en arabe ?
Le ?
C'est-à-dire, par rapport au hadith, il a dit... sans gharar et sans...
Ah, le caillou, naam. Ouais. Naam. C'est le hadith d'Abu Huraira. بيعي الحصات بيعي الحصات نعم
il y a un frère, tu m'avais expliqué, plusieurs frères, qui avaient une école privée en fait. Et je me suis posé la question, c'était halal ou haram, tu vois, Allah a'lam. Si je peux me répondre, ça ressemble à ça en fait. Il prenait 2000 euros en fait au début de l'année, une école privée musulmane. Et, mais il te prévenait que si tu retirais ton enfant, il garderait l'argent quand même, avant la fin de l'année. Et certains frères, ils ont eu des soucis, parce qu'ils m'ont rapporté tout. Ils ont enlevé leurs enfants au bout d'un mois, et eux, ils n'ont pas voulu rembourser l'argent. Et de ce fait, certains frères, ils se posaient la question, subhanallah, est-ce que en fait cette transaction-là, même si ils l'ont accepté, ils l'ont fait, est-ce que en fait c'était clairement halal ou est-ce que en fait c'était pas un peu... Et même moi je me posais la question en fait, justement. Mmh. Et après il y a eu d'autres soucis en fait, a priori avec l'établissement, etc., etc. Comme quoi en fait de deux ou trois problèmes avec l'enfant, mais ils viraient l'enfant mais ils gardaient quand même l'argent. C'est ce qui m'a été rapporté de certains frères qui ont mis leurs enfants dans cette école-là. Mmh. Subhanallah, je me posais la question. Et à chaque fois que j'en parle, en fait, justement, je me pose la question, je me dis, subhanallah, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas? Et c'était pour ça que ça ressemble à ça, subhanallah.
Tu payes un service.
Parce qu'ils l'ont dit.
Là, quand tu payes 2000 euros, tu payes un an de service. D'accord? Après que toi, tu enlèves ton enfant avant ou pas, ça, c'est pas leur problème.
C'est
les conditions qu'ils ont. Toi, tu l'as accepté. C'est comme si tu prends un abonnement de bus. Tu payes un an de bus.
Non.
Et tu prends jamais le bus. Tu vas dire rendez-moi l'argent. Non. Tu as payé.
C'est les conditions que vous avez mis auparavant.
Ouais, c'est comme ils ont accepté les conditions.
C'est ce que je veux dire.
Ça revient sur le consentement.
Le consentement, c'est le consentement. Tu as payé un service. Khlas. Maintenant que. Après, si c'est eux qui excluent ton enfant, ça c'est autre chose. Allah a'ala. Mais si c'est toi qui l'enlèves.
Tu sais à quoi t'attends?
Le contrat, il faut que le contrat il soit explicite alors aussi. Ils disent bien, voilà, si vous enlevez votre enfant, on ne vous rembourse pas.
C'est pas comme l'assurance, tu sais pas à quoi t'attends ici.
C'est pas comme l'assurance, non, c'est pas comme l'assurance. Hein. S'il n'y a pas de. Taïeb, bon les frères.
Alhamdulillah. Sallallahu tabaraka wa ta'ala.
Yufaqihana fi dini. الله تعالى أعلم الله تعالى أعلم سبحانك رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك